chers auditeurs, chères auditrices, et bienvenue au 12e épisode de la Web Radio. Je suis Océane Sarrazin, élève de Ternal, et je suis en compagnie de Mathéo Leclerc, élève de 3e. Bonjour Mathéo.
Bonjour Océane, comment vas-tu?
Ça va très bien, et toi Mathéo?
Ça va Océane.
Eh bien, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Mathéo?
Eh bien, au sommaire du jour, nous avons la rubrique santé avec Ophélie et Morissette et Dania Alaedine, nutritionniste à Paris, la rubrique sport avec Alex et Chantal et la rubrique science avec Nicolas. Une rubrique très riche en perspectives, mais avant tout, les nouvelles.
C'est exact, Mathéo. Pendant les semaines du 21 mars au 8 avril, les secondes viendront dans les classes de première pour trouver quelle spécialité ils vont choisir. Alors assurez-vous de les accueillir à bras ouverts.
Aussi, la foire des métiers se déroulera le 31 mars. Des parents viendront présenter leur métier et vous découvrirez peut-être votre métier du futur. Ce sera de 18h à 20h.
Et le saviez-vous que vous pouvez dès maintenant vous enregistrer pour les camps de jour du printemps. Le thème sera la vie pirate. Le lycée offre aussi des cours durant l'année. Vous pouvez vous inscrire à des cours de secourisme et de gardiennage sur le site COBA.
Dans un tout autre registre, l'année prochaine, c'est le 60e anniversaire du lycée Claudel. Mmh. En honneur de cet événement, voici une petite anecdote sur le lycée. Est-ce que vous saviez que le lycée a une mascotte?
Non, je ne savais pas.
Eh bien oui, Océane. C'est un raton laveur et il est symbole de la générosité, le partage et le don de soi.
Ah, quelle belle qualité!
Il y a beaucoup de choses que les élèves ne connaissent pas de leur école. Alors pour y remédier, chaque émission, on partagera une anecdote sur le lycée. Pour le moment, c'est tout pour les nouvelles. Ophélie et Morissette, c'est à vous les honneurs. Rebonjour Ophélie et Morissette, comment allez-vous?
Bonjour Océane, Mathéo, je vais très bien, merci. Et toi Ophélie?
Je vais très bien, Morissette.
Alors, l'équilibre alimentaire pendant l'adolescence, pourquoi aborder ce sujet?
Lorsqu'on parle de l'adolescence, on pense généralement à la puberté, aux changements corporels comme les boutons, l'odeur, la voix qui mue.
Cependant, il y a un aspect pourtant très important de l'adolescence que nous avons l'habitude de négliger et c'est l'alimentation. On nous parle souvent d'un corps sain dans un esprit sain, mais comment construire un corps sain et ne pas tomber dans les risques d'une alimentation mal équilibrée ou tout simplement faible? Nous invitons donc sur ce plateau notre invitée Dania Alaedine, nutritionniste à Paris.
Bonjour Dania, comment allez-vous?
Bonjour, mais moi je vais très bien, je vous remercie. Je vous remercie aussi de m'avoir invitée sur ce plateau et j'ai hâte de répondre à vos questions concernant l'alimentation chez les adolescents.
Avant de commencer, est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi consiste le métier de nutritionniste? Quelle est la différence avec le métier de diététicien?
La différence entre diététicien et nutritionniste n'est pas très importante. Donc, faut savoir que les diététiciens et les nutritionnistes, ils ont tous les deux connaissances, donc, sur la composition des aliments, leurs effets sur la santé, ainsi que les recommandations nutritionnelles. Et donc, les régimes à adapter en fonction de chacun. La différence va se jouer au niveau des études. Donc, les diététiciens, ils ont généralement un BTS, donc 2 ans d'études. Et les nutritionnistes auront soit un bachelor, 3 ans d'études, ou également un master. Donc, dans mon cas, j'ai un bachelor et un master, ce qui fait de moi donc une nutritionniste spécialisée dans le sport.
Et est-ce que vous pourriez nous décrire la journée d'un ou d'une nutritionniste?
Faut savoir que mes journées sont assez variées. Ma journée classique consiste donc à réaliser mes consultations en nutrition, donc soit au cabinet, soit en visio avec mes patients. Par la suite, faut savoir que je réalise des comptes rendus des consultations que j'envoie directement à mes patients. Donc, soit dans la journée qui suit les rendez-vous, soit le lendemain. Mon autre type de journée consiste à préparer et à animer donc des conférences et des ateliers afin de faire de la prévention nutritionnelle.
Comment devient-on nutritionniste?
Comme je l'ai dit précédemment, généralement, quand on devient nutritionniste, c'est qu'on a obtenu donc soit uniquement un bachelor, donc c'est une licence, c'est des études de 3 ans, soit le bachelor et un master, donc 5 ans d'études, ou uniquement en passant par un master.
Dans la pratique de votre métier, est-ce que ça vous arrive d'avoir des consultations d'adolescents ?
Oui, bien sûr, il m'arrive de recevoir des adolescents en consultation. Il faut savoir qu'en tant que nutritionniste, on a quand même une population assez diversifiée avec laquelle on travaille, donc des femmes enceintes, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, des sportifs, des enfants, des nourrissons, des adolescents. Donc c'est vraiment très diversifié.
Nous avons tendance à penser que manger sainement veut dire manger peu. Mais est-ce vraiment le cas ?
Oui, effectivement, c'est une idée reçue, mais du coup, manger sainement ne veut pas dire manger peu. Mais manger sainement, je dirais que c'est un mode de vie. C'est un mode de vie qui consiste à manger équilibré et manger varié. Donc, il est important d'apporter à son corps, bien sûr, les nutriments qu'il faut pour qu'il fonctionne bien. Mais manger sainement, c'est surtout manger ce qui nous fait plaisir. Donc, manger sans restriction alimentaire.
Et quels sont les différents troubles alimentaires et comment on fait pour les éviter ?
Les conseils que je donnerais aux parents et aux adolescents qui nous écoutent aujourd'hui, c'est tout d'abord de faire du repas un moment convivial, un moment de partage, un moment familial, et non un moment restrictif. Il est aussi important d'avoir un bon rapport avec l'alimentation, donc de savoir écouter les signaux de faim ou de satiété, de pas se forcer sur les prises alimentaires, de pas forcer ses enfants à terminer leurs assiettes, et également de pas se restreindre.
Y a-t-il des symptômes particuliers à prendre en compte en parlant des troubles alimentaires ?
Faut savoir alors que l'anorexie, elle se manifeste par une obsession excessive pour ce que l'on mange et par l'image de soi. Et effectivement, il y a des critères qui permettent de diagnostiquer une anorexie. Donc tout d'abord, un amaigrissement de plus de 15% du poids initial avec un IMC qui est inférieur à 17,5. On a également donc une perturbation de l'image corporelle. Donc la peur de grossir, tout simplement, avec donc une perte de l'appétit, mais ce serait plutôt donc une lutte contre la faim et éventuellement donc contre les aliments entre parenthèses qui font grossir, justement parce qu'on a vraiment peur de prendre du poids. Et enfin, on peut se retrouver face à des personnes qui ont des troubles endocriniens, par exemple la perte des règles chez les femmes.
Merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé. Grâce à vous, les Claudelia, on savait un peu plus sur l'alimentation. On vous souhaite une agréable fin de journée.
J'espère avoir répondu à vos questions. Je vous remercie de m'avoir invité sur ce plateau et à très bientôt.
Nous vous souhaitons une très belle journée. Nous vous disons au revoir.
Au revoir, Dania. Merci beaucoup.
Nicolas, nous sommes tout oui.
Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathéo, bonjour Océane, bonjour à tout le monde. Pour aujourd'hui, j'ai fait quelque chose d'un peu différent. Donc, j'ai réalisé un micro-trottoir sur le thème du point de côté. Vous le savez, lors d'un effort physique, certaines personnes ont tendance à avoir une douleur au niveau des côtes ou en haut du ventre. Mais quelle est l'origine de cette douleur ? Nous allons poser cette question aux élèves du lycée Claudel pour voir ce qu'ils en pensent.
Alors, le point de côté, ça fait longtemps en fait que je n'en ai pas eu, mais dans mes souvenirs, c'était lorsque l'on courait beaucoup trop, qu'on marche trop vite, qu'on est pris d'un fou rire un petit peu plus long que prévu. Voilà, c'est tout ce que je peux t'en dire.
Monsieur Renard.
C'est lié clairement à un effort physique. Mais j'ai pas vraiment d'explication scientifique là-dessus. Désolé.
Merci.
Bonjour, je m'appelle Omar. Je suis en seconde rouge.
Ok.
Je sais seulement que c'est quelque chose qui est dû à la respiration, à une sorte de déséquilibre entre la respiration par la bouche et la respiration par le nez.
En fait, on n'est pas sûr de l'origine du point de côté. Même aujourd'hui, ça reste un mystère pour les scientifiques.
Mystère.
Cette incertitude ne nous empêche pourtant pas d'avoir des idées. Ainsi, il se peut que le point de côté vienne d'une crampe du diaphragme, le muscle responsable de la respiration. Ça se peut aussi qu'il s'agit d'une crampe des muscles abdominaux ou bien de la traction exercée par les muscles autour du ventre pendant l'exercice.
Ah, beaucoup d'hypothèses.
Intéressant, ouais, des hypothèses.
Certains pensent même que cette douleur est causée par une accumulation de gaz dans le tube digestif. Alors, c'est tout pour les causes potentielles des points de côté. Mais comment peut-on les éviter ?
Ma grand-mère m'a toujours dit que c'est en mangeant des bananes.
Ben, d'abord, cette douleur est beaucoup moins fréquente chez les personnes qui font beaucoup de sport. Voilà encore une autre raison pour faire de l'activité physique. Mais si vous avez encore ce problème, il est recommandé de se reposer pour quelques minutes. N'oubliez pas de boire de l'eau parce que cela peut aussi aider. C'est tout pour cette semaine. Merci encore.
Merci beaucoup Nicolas. Reviens quand tu veux. Hein. Alexis et Chantal, on vous écoute.
Salut les amis.
Salut.
Qu'avez-vous pour nous aujourd'hui ?
Eh bah, dans un premier temps, on va parler des huitièmes de finale des coupes européennes qui se sont terminées et comment commencer autrement que par la surprise de ces huitièmes de finale de Ligue des Champions par l'élimination du PSG face au Real Madrid. C'est une grande surprise, mais il faut surtout savoir avant tout que le PSG a maîtrisé les 90 premières minutes du match aller et les 60 premières minutes du match retour, mais a complètement offert la victoire aux Madrilènes en s'écroulant en 30 minutes et en encaissant 3 buts.
L'autre club français de ses huitièmes de finale de LDC a aussi été éliminé face au futur adversaire du Real dans cette compétition. Chelsea, les tenants du titre qui avaient déjà fait chuter le Real l'année dernière.
Sans surprise, Manchester City a éliminé le Sporting et affrontera l'Atlético Madrid, tombeuse du Manchester United de CR7.
Et sans plus de surprise, le Bayern s'est qualifié face au RB Salzburg. Les deux bons matchs des Autrichiens n'auront pas suffi à faire tomber le Bayern qui affrontera le club espagnol de Villarreal.
La dernière affiche de ces quarts de finale de Ligue des Champions opposera Liverpool au Benfica Lisbonne qui a réussi à éliminer in extremis un Ajax pourtant en forme.
On descend d'un cran pour se pencher sur les affiches d'Europa League. Le Barça s'est fait peur mais a réussi l'essentiel en se qualifiant face au Galatasaray et affrontera Francfort, tombeur du Betis Séville.
Un autre club sévillan éliminé de l'Europa par les Anglais cette fois. En effet, l'équipe de West Ham a éliminé le FC Séville grâce à un match retour très réussi. West Ham affrontera le premier club français qualifié pour un quart de finale de Coupe européenne, l'Olympique Lyonnais, qui a quand même eu du mal à éliminer une belle équipe de Porto.
Le dernier match opposera les Glasgow Rangers qui continuent leur super parcours au Sporting Braga, tombeur d'une équipe monégasque sans envie de jouer. La nouveauté cette année, c'est la Conference League. Cette nouvelle Coupe d'Europe est la plus faible dans la hiérarchie, mais propose de très très beaux matchs et nous fait découvrir de superbes équipes comme celle de Bodø/Glimt qui s'est qualifiée pour les quarts de finale cette compétition et qui affrontera la Roma qui est qualifiée dans la douleur ou vitesse.
Et cette nouvelle compétition n'est pas encore équipée de la VAR, donc de l'arbitrage vidéo, et cela a fait défaut au Stade Rennais qui s'est vu refuser 2 pénaltys synonymes de qualification. Vous l'aurez compris, le Stade Rennais est éliminé, et il y a quand même un deuxième club français qui a réussi à se qualifier, c'est l'Olympique de Marseille qui a su éliminer le club suisse du FC Bâle. Les Marseillais affronteront le PAOK, tombeur des Belges de la Gantoise. Ce sera tout pour la rubrique sport aujourd'hui. La prochaine fois, on parlera des matchs de qualification pour la Coupe du Monde 2022 de foot, avec la qualification notamment du Canada, une première depuis 36 ans.
Wouh, go Canada, go!
Merci Alexis, merci Chantal. Malheureusement, nous venons à notre fin de notre émission d'Info Claudel. Merci beaucoup à nos invités pour leur rubrique passionnante. Il ne faut pas oublier notre régisseuse Yasmine, notre technicien Cyprien et Mathéo.
Yes.
Tu peux finir si tu veux.
Chers auditeurs, chères auditrices, merci de votre fidélité à la web radio de Claudel. On vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même lieu.